la jeune fille au à Vermeer et puis autour de Vermeer, à chaque fois comme ça, une sorte d'œuvre repère qui serait une sorte de continuité. Juste, je reprends là parce que j'ai plein de dossiers, puis parfois j'oublie de changer de l'un à l'autre, d'un ordinateur à l'autre. J'ai retrouvé d'autres héros que j'avais en fait téléchargés, j'avais oublié de vous montrer. Rappelez-vous donc ce peintre et dessinateur figuratif franco-islandais, hein, et qui effectivement croise les genres, hein, de manière très très claire, entre le politique, la peinture, le dessin. Rappelez-vous que ce sont des peintures, hein, c'est une peinture, mais qui fait toujours hommage au graphisme, notamment à la bande dessinée, et souvent aussi avec des références politiques très très claires, qui sont quand même une sorte d'écho, aussi compris au télescopage auquel on est confronté par revues, magazines, journaux, dessins de presse, télévision, cinéma, etc. Une espèce de saturation d'image, et lui essaye d'en faire quelque chose souvent, et notamment ça daigne depuis la caricature à l'imagerie, etc. Donc ça, c'est toujours héros. Là, il y a le politique, mais il y a aussi la consommation, hein, le bombardement d'images auxquelles on est confronté, toujours avec ces espèces de, le graphisme parfois même pauvre et stéréotypé, comme par exemple ici, ces sortes d'imagerie totalement pour enfants, mais auxquelles il donne une dimension puissance, hein, toujours avec cette idée d'une quantité. Alors la quantité, rappelez-vous, c'est vrai que c'est une sorte de garantie, quelque part, notamment au XXe siècle, sur la question du dessin et de la figuration, parce que comme le dessin et la figuration étaient questionnés, remis en cause, eh bien, beaucoup d'artistes s'appuient sur soit le travail, soit l'illusion, soit la quantité, pour essayer de donner une densité à leur travail. La densité, j'en ai un peu parlé dans un autre article, c'est effectivement une œuvre d'art, elle doit nécessairement être dense, soit en tant qu'objet, soit du point de vue des intentions, soit du point de vue, y compris de la valeur et du sens, etc. Donc, comment est-ce qu'on va donner de la densité? Ça peut être aussi, par exemple, par la quantité. Quand ce n'est pas par la virtuosité ou les matériaux précieux, ça peut être par la quantité. Et c'est un peu ce que fait Héros, quantité de travail, alors référence aussi à la bande dessinée, mais ça on l'avait dit de manière très très claire, et y compris là dans une de ses œuvres qui est là très clairement en hommage à la bande dessinée et aux comics, hein, et dans lequel effectivement on va retrouver à peu près tous les héros, même Gargamel, le Gaston Lagaffe, le chat, etc., et comme une sorte de labyrinthe cohérent, prodigieux de diversité, hein, avec effectivement un certain humour où tout se mêle. Donc, héros avec souvent quelque chose qui est intéressant dans presque tous ses travaux. Le graphisme, normalement, c'est vraiment quelque chose de plat, de linéaire, etc. Et lui, il joue aussi pas mal sur la profondeur de champ, l'espace et la perspective. Qui, théoriquement, hein, espace, perspective, rappelez-vous, ce sont des pratiques justement linéaires aussi, graphiques, hein, de description de l'espace par des qualités graphiques et non pas des dégradés atmosphériques, etc. Donc le héros est très cohérent dans son rapport, hein, au graphisme, jusque dans sa représentation de l'espace. Alors ça, ce sont des... Alors toujours, ce qui est assez marrant avec héros, c'est le travail de série, hein, puisque la plupart du temps, ces peintures ont le même format. Donc c'est une sorte de structure aussi qu'il se donne. Hein, il a la structure, il a la peinture. Alors je crois que c'est pas la peinture à l'huile, c'est de l'acrylique, hein, qui sèche assez vite, parce que à l'huile, je crois que ça serait impossible de faire ça, parce que la peinture acrylique, comme ça sèche, on peut faire des reprises, des retouches assez rapides, hein, il y a une fluidité, et puis il y a des aplats qui sont plus faciles à faire. Donc c'est un travail aussi de quantité dans l'œuvre, et dans son œuvre globale, on va dire. Donc ça, c'est... Et ça, on l'a vu, et ça, c'est un détail. Alors ça, on avait vu l'autre fois, mais je voulais vous rappeler héros. Alors, il y a, et ça on avait vu Jean-Olivier Hucleux, on avait vu aussi Gazurowski. Alors j'étais arrivé là, à une école française de graphisme et de peinture, qu'on a appelée justement la figuration libre, dans les années, on va dire, 80-90. La figuration libre, un des acteurs principaux s'appelait François Boiron, je dis s'appelait parce qu'il est décédé assez jeune, hein. Et voilà, presque pas 25 ans, donc il avait une petite quarantaine d'années. Et François Boiron, ainsi qu'on va voir Combas et Di Rosa, on rappelait ce thème de la figuration libre, dans une espèce d'esthétique ou de culture, on va dire, un peu punk ou postmoderne, voulant se débarrasser un petit peu de trop de références culturelles, trop de références artistiques, trop de références stylistiques, sans discours, en disant, ben, nous, on peint ce qui nous plaît et on dessine ce qui nous plaît. Et on revient, y compris, à un côté un peu enfantin, hein, du plaisir de dessiner et de figurer, et ce qu'ils vont appeler la figuration libre. Alors, avec une sorte de spontanéité. Alors, Boiron est peut-être un petit peu plus subtil dans son travail, parce que c'est tout un travail de couleur. En fait, il dessine en couleur. On voit que ce sont ici des traits au pinceau assez large, avec une certaine franchise et générosité. Mais ce qui prime, c'est le graphisme. D'ailleurs, le réseau de Paris au milieu des lignes de métro est effectivement un petit clin d'œil sur sa manière de peindre l'image ici, qui était tout en ligne, et tout d'un coup, qui trouve un écho avec la représentation en plan et avec les lignes de métro. Donc c'est comme si tout d'un coup la vision en plan et la représentation graphique de Paris se combinaient avec une représentation en perspective et de visualisation de l'espace en trois dimensions. Donc Boiron, alors voilà aussi Boiron. Alors on n'est pas très éloigné de Fromanger, si vous voulez, sauf que Fromanger a une dimension plus politique. Hein, et là, ce côté un peu... enfantin, on le voit avec les références au Schtroumpf ici, avec une sorte de côté un petit peu sans enjeu. Hein, ça, c'est assez clair que ces artistes-là ne veulent pas rentrer dans un discours. Hein, il y a quelque chose de délibérément léger dans leur manière de faire, à la limite parfois du décoratif chez Boiron, mais totalement assumé. Une espèce de légèreté, quelque chose qui est juste comme posé d'ailleurs, d'où cette espèce d'élégance, hein, très fine, de Boiron, avec des formes qui sont presque flottantes, hein, par exemple les espaces, etc., des aplats très délicats, et puis ici tout un travail linéaire qui est repris aussi beaucoup par l'écriture. Hein. Donc on retrouve aussi le rapport à l'écriture, à la ligne, au trait, et confronté à des surfaces assez subtiles et très délicates, sur des tons délicats, comme par exemple les rouges, les verts, les gris, etc. Donc François Boiron. Alors, un de ses comparses les plus connus, parce qu'il va faire une carrière plus longue, etc. Puis alors lui, il joue un petit peu sur le bad boy, le côté un peu punk, hein, figuration libre. Alors au lieu d'avoir une espèce de légèreté, une certaine naïveté assumée de François Boiron, Combaz va faire un petit peu le dessin du sale gosse, un petit peu avec des maladresses délibérées, des bavures, des thèmes autour d'une sexualité un petit peu débridée, parfois un peu même... trash, un petit peu pornographique, scatologie, des choses comme ça, avec une sorte de transgression systématique, donc un esprit effectivement, on va dire, transgressif, avec une sorte de liberté délibérée, justement, de mauvais goût, hein, assez clairement affiché, qui le rapproche un peu du graffiti. De ce point de vue-là, c'est assez vrai, hein, cette idée du graffiti, de l'écriture, etc. Et avec des grandes toiles, peintes directement souvent, alors ça c'est assez typique notamment de Boiron, c'est une peinture qui se fait, on va dire, à même la toile, hein, et, directement sur ces toiles, avec plus ou moins des thèmes, hein, il va faire des séries, même sur la Bible, sur certaines légendes, etc., sur la mythologie, sur les Grecs, etc., donc il va se confronter parfois à des grandes thématiques, mais qu'il traite un petit peu comme, si vous voulez, les malmenés. Voilà, alors c'est de leur part... Alors ça, c'est une des œuvres peut-être les plus subtiles, hein, de sa part, je trouve. Là, il y a un travail de composition qui est très intéressant sur les anges déchus. Donc, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui fait une référence à des grandes traditions picturales, la Bible, la mythologie, les anges déchus, comme par exemple ici. Hein. Alors, les anges déchus, contemporains, alors c'est plus ou moins des portraits à l'envers, portraits abîmés, les personnages qui font... qu'on ne peut pas forcément identifier toujours, et puis un personnage qui chute là, qui est même anatomiquement assez intéressant, hein, comme une sorte de superposition, mais vous voyez toujours la prééminence de la ligne, une ligne expressive justement, comme une écriture un peu rageuse, ça c'est assez clair aussi dans le travail de Combaz. Alors là, encore, alors ça s'appelle le Touquet, donc c'est deux personnages à la plage, hein, et puis la plage autour, donc avec... le grouillement, la foule, donc un jeu, etc. Très clair aussi sur le débordement, la quantité, la spontanéité, la liberté. Alors, on est dans une culture rock un petit peu, hein, dans une culture rock, punk, des années 90, assez clair, ou, on va dire aussi post-moderne, où on n'affiche pas vraiment ni de valeur, ni de point de vue. On est dans une sorte de, d'énergie individuelle, hein, qui s'affirme un petit peu tous azimuts, sans pensée ni sans concept, de façon très très brute. Alors, ce qu'on retient surtout de Conrad, bah, c'est beaucoup cette énergie, cette espèce de vigueur qu'il y a dans ses travaux, qui est parfois séduisante, et puis parfois un peu pénible. Mais bon, c'est en tout cas un des artistes français reconnus de cette époque-là. Alors là où il est intéressant aussi, c'est qu'il fait quand même le lien, hein, comme héros, entre une culture populaire, bande dessinée, d'imagerie, et puis on va dire les arts majeurs, entre guillemets, beaux-arts, peinture, etc. Et il y a deux doigts aussi entre la narration, la figuration et puis le décoratif. C'est tellement grouillant et brouillé que finalement, on ne peut pas en dégager un sens précis. Donc, ça reste une sorte de chaos comme ça, visuel, de forme et de figure. Un petit peu comme le bruit dans les groupes punk, hein, qui vont effectivement jouer sur une saturation de l'espace sonore, avec quelque chose aussi de brutal, d'individualiste, un peu nos futurs. Donc, on pense qu'on n'a pas de valeur et puis en même temps, on occupe quand même l'espace. Donc ça, c'est assez clair, le principe. Alors, parfois, comme il dure longtemps, il finit quand même par aborder, et là, c'est toujours le combat, ça. C'est quelqu'un qui va finir aussi par avoir des grandes ambitions. D'ailleurs, c'est pas mal, c'est pas inintéressant, hein, donc de dépasser, on va dire, le simple transgression, affirmation de soi, etc., pour aller vers des œuvres assez amples, comme par exemple ici, hein, ce concert, ou d'autres peintures dans lesquelles, au bout du compte, il finit quand même par aussi travailler la couleur, au-delà de son graphisme, les harmonies colorées, les tons, et on n'est pas loin parfois du décoratif, hein, un décoratif peut-être un peu brillant, etc. Mais de ce point de vue-là, Combat, c'est aussi quelqu'un qui a quand même continué dans cette ligne-là, et de ce point de vue-là, il a le mérite d'avoir tenu bon autour de ces quelques codes. Et ça, c'est encore Combat. Alors, c'est quand même un travail de ligne qui est intéressant, hein. Un travail de ligne où on voit les jeux d'épaisseur, l'énergie qui est donnée par les courbes, hein, qui évoque aussi le gribouillis de bord de marge, de cahier, le remplissage systématique. Avec Combat, on a quelque chose qui est parlé aussi parfois de l'art brut. Hein. N'oubliez pas que l'art brut, on est dans une espèce de quantité, on est dans des gens qui font semblant de ne pas avoir... L'art brut, ils n'ont pas de référence culturelle, mais cette idée aussi qu'on veut se dégager des grands ancêtres au niveau de la technique et en même temps embrasser toute la complexité du monde. Dans l'art brut, presque tous les artistes de l'art brut ont de grandes visions un peu métaphysiques. Donc Combat essaie de faire un lien de ce point de vue-là qui fonctionne parfois. Alors son complice, par contre, c'est bizarre, hein, moi je pensais trouver beaucoup plus d'œuvres de sa part, c'est Hervé Di Rosa. Alors, il y a deux frères, hein, on dit les Di Rosa souvent. Ils sont du sud de la France, j'ai oublié de vous dire. Hein. Ils sont de Sète, du sud de la France. Et d'ailleurs, ils ont un côté justement un petit peu régional contre les Parisiens. Un peu ce côté un peu transgressif, pied de nez. Paris, c'est les intellos, Paris, c'est la culture. Nous, on est des gars, on est des petits punks rockers du province. Et donc, on fait ce qui nous plaît, cette espèce de liberté totale. Et c'est clairement affirmé, avec les limites, hein, du genre. Alors, Hervé Di Rosa est moins graphiste du point de vue strict, c'est au niveau des lignes et des contours. Par contre, il a des références assez claires à l'illustration en général, comme par exemple ici, hein, Di Rosa mobile, Di Rosa mobile, etc. Alors lui, il affirme beaucoup la couleur, des couleurs saturées, des couleurs primaires, et puis un graphisme enfantin, hein, très clair, mais qui prend une dimension majeure et adulte avec saturation, quantité, une thématique aussi parfois, on est du côté du fantasme, hein, du détournement, et parfois un petit peu, il y a des références aussi à la sexualité, à l'érotisme assez clair. Alors Di Rosa, c'est aussi quelqu'un quand même qui va être toujours dans cette espèce d'entre-deux. Hein. Il a parfois des illustrations aussi vraiment pour enfants, et puis parfois des œuvres pour adultes. Et il essaie de tenir cette espèce de ligne de crête et d'équilibre, et continue à travailler, à peindre. Hein. Donc, Qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, ça c'est pas dit Rosa. Juste, non, ça. Ça juste une chose, parce que c'est une ancienne élève que. Chloé Mathieu. Vous avez peut-être connaissez Emmanuel Mathieu, sa mère, prof d'anglais, oui. Chloé Mathieu est devenue graphiste et illustratrice maintenant, c'est de talent. Et elle a illustré récemment la bande dessinée d'un artiste complètement décalé, punk, rock, underground, très connu à l'étranger, mais absolument invisible et censuré en France tellement il est trash et scandaleux et horrible. Il s'appelle Cost, tu connais ? Non. Et elle le connaît depuis longtemps et elle a illustré une de ses bandes dessinées. Donc j'ai. Voilà. Et ça, c'est Chloé, qui est une ancienne élève qui a fait les beaux-arts d'Angoulême, qui a même été à la Villa Arson à Nice, et qui est de la région. Hein. Et ça, c'est le livre de Cos, c'est Les guerriers amoureux, et ça, c'est le graphisme de Chloé. Elle a toujours travaillé uniquement en stylo à billes, hein, et je fais un petit clin d'œil parce que j'ai trouvé ses œuvres, et effectivement, elle aussi, elle est à la limite aussi entre graphisme, art majeur, hein, avec une expressivité, une certaine violence et une transgression, parce que le dessin a cette espèce de puissance aussi d'être le graphisme, c'est un peu l'art pauvre aussi, parce que c'est un outil simple. Donc, si vous voulez, le fait qu'il soit utilisé comme un stylo, un cri, etc., au début, très, très simple, hein, et puis qui va un peu plus loin, avec délibérément, de la part de Chloé, des choses qui sont parfois un peu maladroites, hein, au niveau apparemment maladroites, au niveau de l'anatomie, etc., et puis une grande violence. Les dessins de Chloé, même quand elle était dans la première terminale, c'était horrible. Des massacres, des éventrations, des écorchés, du sang. Là, quelqu'un qui est en train d'assassiner Abdallah chez R.G. Tintin. Et puis, si vous regardez, alors ça c'est spécifique de Chloé, c'est que tout est fait au stylo à billes. C'est-à-dire que tous les dégradés sont effectivement uniquement graphiques. C'est vraiment un travail extrêmement fin au niveau. Donc, il y a une part d'horreur, une part de violence, en même temps une très très grande douceur dans l'utilisation du stylo à billes. Donc, Chloé Mathiez, elle est encore jeune, mais. Je faisais un petit clin d'œil à son. Alors, elle est quand même dans l'underground, hein, parce qu'elle a une culture punk aussi, mais on est. Il y a dans toute cette frange, si vous voulez, de la création en France, alors, les Di Rosa, Combas sont un petit peu plus reconnus, mais vous avez tout un filon autour aussi des fanzines, des blogs, des sites, des petits magazines. Clandestins ou qu'ils ont un très peu d'exemplaires, il y a toute une édition, mais en même temps très dynamique, très vivante, hein, et qui s'exprime beaucoup par un graphisme comme ça, rageur, on va dire, etc. Alors, la tension du graphisme et la violence du graphisme, on la trouve aussi chez, alors de façon majeure, chez quelqu'un comme Anselm Kiefer, qui est le grand artiste allemand connu actuellement, K-I-E-F-E-R. Il a bientôt exposé au Musée Rodin, qui a exposé un peu partout, à la Monumenta, au Grand Palais, à Guggenheim. Enfin, c'est l'artiste figuratif reconnu actuellement, avec en plus un contenu tragique, puisque la plupart du temps, il fait référence aux conflits majeurs du XXe siècle, ou même de l'histoire. La Révolution française, les camps de concentration, etc. Et il fait très clairement aussi référence à l'écriture et au texte. Comme on va le voir, y compris parfois dans sa présentation, où il fait aussi référence au livre avec des sortes de pages, parfois des pages monumentales, des grands cahiers, des choses qui se voient, etc., sous plusieurs angles. Et alors, Anselm Kiefer, alors là on peut zoomer un petit peu, c'est quelqu'un qui accorde une énorme importance justement à la ligne au trait, au noir et blanc. Et de ce point de vue-là, l'expressivité de la ligne, on le voit parce que c'est une sorte de geste. Primitif, hein, tracé, ligné, appuyé, gratté, gravé. On est avant l'espèce de mise à distance de la couleur, de l'étendue, de la surface, etc. Donc très clairement, avec une sorte d'urgence et de volonté d'inscrire, hein, par le noir et blanc, par le trait, la violence souvent de son propos ou la radicalité de son propos. Juste une chose au niveau de Kiefer quand même, ce qui est aussi clair de sa part, c'est... la tradition allemande de la gravure, hein, depuis Sébastien Brandt qui est alsacien, etc. Mais les gravures sur bois, les gravures de Dürer, les gravures aussi de. Comment il s'appelle ce graveur lorrain absolument extraordinaire, qui a il gravait des pendules, etc., du XVIIe siècle, jusqu'à l'expressionnisme allemand aussi de 1910 autour de Blaureiter, tous les expressionnistes allemands qui ont travaillé la gravure avec cette violence, cette dureté, la qualité du noir et du blanc. C'est un truc tout bête, hein, l'imprimerie est née aussi, Gutenberg, etc., le travail sur le noir et blanc, la pression, le travail de graphisme pur, c'est aussi quelque chose... Bon, je pourrais faire un truc spécial là-dessus, mais le graphisme germanique, hein, on trouve même dans les manuscrits, c'est assez typique. On le travaille plus par la ligne et le trait que par les couleurs, les modelés, la sensualité, etc., qui sont plus, on va dire, plus italiens, plus méditerranéens. C'est un peu des grands schémas, mais c'est assez vrai. On le retrouve chez Kiefer, hein. On retrouve chez Kiefer, et vous voyez la référence au texte et au livre aussi, puisque ce sont des objets-livres complexes, hein, comme voilà, attention, on peut zoomer, hein, maintenant on a des documents de qualité, je peux zoomer, hein, un travail très, très fin, qui a l'air un peu brut et sauvage, et en même temps, dense, assez raffiné par la quantité, par les découpages, par les rapports, donc on plonge réellement dans son œuvre graphique. Donc Anselm Kiefer. Alors, Kiefer aussi, c'est quelqu'un qui... alors attention, hein, ça, c'est toujours des livres. Hein. Vous pouvez utiliser du collage, des photos noir et blanc, la dimension aussi poétique des traces et des taches, ou des moisissures, ou du crépi, de la décrépitude. Hein. Souvent, ce sont des mondes en guerre, des mondes en ruine. Donc, l'image des ruines et ruines de l'image. De ce point de vue-là, il va jouer de manière très très claire sur cette idée-là aussi d'un graphisme à la fois qui essaye de percer puis en même temps qui est abîmé. Hein, donc il y a une puissance alors assez tragique. Hein, alors là, vous voyez un petit peu le travail de déconstruction, de démontage, hein, qu'il va faire sur ses livres. Et puis on va passer aussi avec lui, ce qui est assez bien, du livre à l'œuvre monumentale. C'est-à-dire que lui, il y a une sorte de continuité depuis le livre jusqu'à l'œuvre monumentale. Il avait même exposé au Grand Palais dans le cadre de Monumenta, mais ce qui est intéressant à lui, c'est que ce soit petit ou grand, il va garder les mêmes outils, hein, et les mêmes outils et surtout les mêmes esthétiques. Justement, du noir, hein, de l'ocre, du blanc, et puis aussi les effets de texture, de matière, des ruines, des surfaces abîmées, alors il va travailler avec du béton armé, avec de la paille, avec de la terre, avec du plomb. Donc c'est quelqu'un ensuite qui va donner une sorte de dimension physique à des choses qui viennent, on va dire, du graphisme du papier. Hein. Là, par exemple, c'est une peinture, ce sont des peintures gigantesques. Hein. Là où, avec Kiefer, qui est intéressant aussi, c'est qu'il va garder, par exemple, aussi la perspective linéaire. Vous voyez, ce sont des sortes de sillons de terre totalement désertée ou usée, abîmée, tuée, qui évoque l'hiver, qui évoque la guerre, qui évoque les camps de concentration, qui évoque les champs de bataille, sur lesquels vous avez des sortes de livres un peu cercueils qui sont collés, donc il fait un lien aussi à toute chose, avec des mots et des phrases que l'on voit de temps en temps apparaître, soit sur la peinture, hein, comme les gens voient ici, l'hiver, le texte, etc., soit à l'horizon. Hein. Donc un rapprochement entre écriture, peinture, gravure, etc., et mis en scène, et la plupart du temps réunis par le livre, réunis par la perspective, réunis par un chromatisme, alors un peu tragique, hein, ça c'est typique d'Anselm Kiefer, et monumental. Et là encore, l'air de rien, c'est quelqu'un en même temps qui a un grand sens de l'espace et de la perspective. Vous voyez ici, si vous clignez les yeux, vous avez effectivement une sorte de cibule en profondeur. Hein, donc avec un jeu de profondeur de champ qui n'apparaît pas quand on voit le détail premier, où tout à coup on a l'impression de voir surtout un chaos de taches et de lignes, etc., sans voir qu'il y a une sorte de cohérence. Alors, influence de Monet, hein, de ce point de vue-là. Et puis la peinture utilisée quand même de façon linéaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des surfaces de couleurs, c'est un peu comme s'il dessinait directement avec ses tubes en les écrasant, hein, donc une sorte de d'affirmation encore toujours du geste linéaire, hein, qui finit par prendre... Ah zut, par... Ah, être rendu cohérent. Alors voilà, hein, encore ça c'est du Kiefer, où il fait référence à des textes philosophiques, poétiques, hein, des journaux, etc. Et puis la terre brûlée, hein, réduite justement à l'état de signes minimalistes, comme ces espèces de petits poteaux. On ne sait pas si ce sont des tombes ou si ce sont des vignes brûlées. Donc, évidemment, il y a toujours quelque chose de mort chez lui. Ciel noir, etc. Alors, cet expressionnisme allemand, qui est ancien, avant la guerre 14-18, après la guerre 14-18, et y compris après les catastrophes du milieu du XXe siècle, les camps de concentration, le nazisme, etc., il y a chez Kiefer, évidemment, une sorte de travail de mémoire intime et puis de mémoire collective sur l'Allemagne, terre brûlée, terre gaste, abîmée, mais d'où pourraient peut-être renaître quelques rites par le langage, et puis résister à la disparition complète. Donc c'est vrai que Kiefer, de ce point de vue-là, quelqu'un de très fort. Et puis il maîtrise, si vous regardez bien, à la fois graphisme, perspective, lumière, hein, parce qu'en fait, il y a des effets de profondeur qui sont assez remarquables, hein, et qu'on ne voit pas au premier regard. Hansen Kiefer, ça c'est toujours Kiefer. Hein. Regardez l'espace au sol, en bas, évoque justement soit une terre, soit une mer, mais une profondeur de champ. Et tout d'un coup, c'est le ciel lui-même, hein, comme des jours qu'on va biffer, le temps qui passe, etc. Donc, et là, qui sont grattés, gravés dans la peinture. Donc, là, on retrouve aussi l'influence un petit peu aussi de gens comme Anthony Tapies, hein, cette espèce de balbutiement, de langage qui essaierait de renaître avec des gestes primitifs, de gratter, de graver, de trouver des marques, des repères, mesurer quelque chose, mais un peu en vain. Hein, ça, c'est très poétique lecture. Alors, un autre Allemand très intéressant, alors, c'est pour ça que j'ai mis les Allemands ici. En Allemagne, il y a quand même quelque chose, y compris dans l'Allemagne contemporaine, qui est différent de la tradition française, c'est qu'il n'y a pas eu les débats idéologiques et un petit peu pompeux sur figuration, abstraction, art conceptuel, etc. De ce point de vue-là, en Allemagne, comme aux États-Unis, les artistes sont surtout reconnus pour ce qu'ils font, et on ne leur demande pas forcément d'adhérer à telle ou telle école ou tel discours. Alors qu'en France, j'étais presque obligé de faire une école, les nouveaux réalistes, la figuration libre, la figuration critique, qu'est-ce qu'il y a encore, support surface, presque à chaque fois pour vous imposer dans le domaine français, on a presque l'impression qu'il faut tout à coup faire un discours, faire une équipe et essayer de s'auto-justifier, de se justifier auprès d'une critique, des collectionneurs, des galeries, des institutions. Et donc parfois ça étouffe un petit peu certaines créativités, libertés individuelles. Et puis, selon qui décide de quoi au niveau des institutions, il y a un côté positif en France avec les institutions culturelles qui aident, qui subventionnent, etc. Mais il y a aussi un côté parfois normatif, puisque vous n'avez des subventions que si vous correspondez aux critères que l'institution va retenir. Hein. Donc, si vous voulez que ce soit en théâtre, en cinéma, en musique, en danse ou en art plastique, on va voir aussi parfois une sorte de normalisation parfois de certaines aides dans l'art contemporain. Et ça, c'est... Alors qu'en Allemagne, il y a quelque chose de beaucoup plus libre, et c'est plus au niveau de la puissance expressive de tel ou tel artiste, de sa personnalité, que ça va être reconnu. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un comme Sigmar Polke, P-O-L-K-E, eh bien, elle a toujours été quasiment reconnue. Alors, lui, c'est une sorte de virtuose qui mêle peinture, graphisme, collage et assemblage. C'est ici quelqu'un qui va travailler sur les supports de tissus récupérés, du tissu souvent populaire, hein, des tissus de lit avec, vous avez vu, des motifs de footballeurs ici, des tissus à poids, etc. Donc il va les tendre, donc c'est le support lui-même expressif, il est daté, il est connoté, il est tendu sur des grands châssis, et il dessine sur ces tissus des figures et des dessins qui sont issus souvent d'un art aussi populaire. Hein, vous retrouvez Alice ici devant un grand champignon avec une sorte d'escargot. Vous avez ici un handballeur sur une image ici de foot, etc. Donc, c'est une sorte de croisement de genre, hein, de mélange de genre, assez décoratif et poétique, qui évoque la maison, l'imagerie populaire, etc. Et donc là, chez Sigmar Polke, on est beaucoup dans une sorte de jeu, hein, graphique et séduisant, qui fait référence à l'illustration populaire, comme par exemple ici le cirque, sur des tissus imprimés, et parfois avec des effets aussi d'agrandissement des défauts de l'imagerie populaire, par exemple la trame. On sait que si vous avez des petites vignettes de bande dessinée, des choses comme ça, souvent quand c'est imprimé dans les livres pas trop chers, eh bien c'est imprimé de manière économique, donc on a la trame, on a les pixels, etc. Et donc en les agrandissant, hein, comme par exemple ici un point, alors on a du mal à repérer ce que c'est, mais d'un coup, ce qui était photographie ou illustration est réduit à l'état presque de point. Par-dessus, il va repeindre comme si on était dans une sorte d'impression de mauvaise photocopie. Et puis ici, vous avez un tissu récupéré, hein, ce n'est pas de la peinture, c'est un tissu récupéré étendu. Donc ça, c'est vers Paul Klein, cette espèce de jeu comme ça, avec différents registres d'imagerie. Hein. Et alors parfois, on va croiser ici des images érotiques, ici il y a des seins, un lit, etc., des nus, avec des imageries issues de dessins, de bandes dessinées, de livres d'enfants, de la bande dessinée, des journaux, des taches de peinture, des tissus récupérés, etc., cousus, recousus. Et alors là, on est toujours au niveau du propos, si vous voulez, dans cette espèce de perte d'ivresse dans laquelle on est confronté en tant qu'artiste devant les images. Il y a tellement d'images, de supports, de textures, etc., que certains artistes essaient de les rassembler et d'en faire œuvre, de faire œuvre avec toutes ces bribes. Voilà quelque chose avec. Chez Paul Klein, c'est très séduisant, parce qu'il y a de la virtuosité. Il y a une sensibilité, une sensualité au niveau des supports et des textures, des matières. Et puis, il y a un très beau travail graphique, hein, de modeler, de dégrader, de gris optique, comme par exemple, assez grand, hein, donc là, si on zoome, hein, ce sont des travaux qui sont très raffinés en même temps, hein, donc très séduisants, avec des images qui normalement sont faites sur un papier blanc, puis d'un coup elles sont traversées, hein, par d'autres réalités. Pas mal de choses à dissociation, support, dessin, etc. Alors, dans le rapport justement aux pixels, aux effets graphiques, etc., vous avez le grand artiste peut-être de référence, je termine avec lui, qui est peut-être le plus subtil là-dessus, c'est voilà, Roy Lichtenstein, un pop artiste américain. Alors, attendez. Ah ben, j'ai pas mis les plus célèbres. Peut-être parce que vous les connaissez, là j'ai juste montré ces clins d'œil à la peinture. Alors, vous connaissez presque tous les œuvres de Roy Lichtenstein en référence directement à la bande dessinée, qui va agrandir. Et Roy Lichtenstein, tout le monde voit, ou vous voulez que je vous en montre certaines de ses plus célèbres, parce que sinon, attendez, je peux les récupérer assez vite. Parce que... Je rappelle quand même, hein, parce que... Certains n'ont peut-être pas bien écouté. Alors, Roy Lichtenstein, je crois qu'il est mort, c'est pas longtemps. Il y a une très très belle rétrospective à Beaubourg, voilà quoi, 2 ans, 3 ans. Hein, et la plupart d'entre vous, on connaît la plupart du temps, ce type de. Et par contre, ce que l'on ne sait peut-être pas toujours, c'est d'où il part, justement, parfois. Lui, il prend vraiment des vignettes de bande dessinée, des magazines bas de gamme, etc. Et il fait une opération de sélection, hein, et l'air de rien, il y a une légère transformation. Systématisation des couleurs, vers des couleurs pures, bleu, jaune, rouge, noir, blanc, hein, la plupart du temps. Il va systématiser aussi, faire une sorte de petit clin d'œil justement à la trame, vous voyez ce que je vous disais sur la trame d'impression, ici, qui est nécessaire. Alors, quand c'est une petite taille, on ne voit pas les points, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le mélange optique. Mais Roy Lichtenstein, au sens strict, il va magnifier ces petits détails de rien du tout. Il va donc rendre ces images grandes, au sens strict, il va les rendre uniques. Elles sont imprimées, il les fait à la main. Elles sont petites, il les rend grandes. Elles sont en général liées à une narration plus générale, ce qui fait qu'on oublie la vignette parce qu'elle rentre dans le flux et le flot de la narration. Donc en l'isolant du compte, en la décontextant, il la rend plus intéressante. Tout d'un coup, elle a, en puissance, elle a une histoire plus vaste. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Vous avez une sorte de mystère. Il y a aussi l'idée du cadrage. Et puis il le fait à la main. Donc ce qui est fait normalement de manière industrielle ici, il le fait à la main. Donc d'un coup, il va rendre unique et sensible quelque chose qui était banal. Hein, et donc, au départ, Roy Lichtenstein, en tant que pop artiste, essaie de s'approprier ses dessins. Alors ça, c'est assez rigolo. Non, mais petit, pour la France. Ça, c'est bon. Et là, donc, l'œuvre de Lichtenstein est donc une sorte de d'épure, hein, très claire, et de geste un petit peu de sélection et de célébration d'images au départ simples. Bon, ça, je pourrais vous montrer. Alors, Ce qui est assez drôle avec Liechtenstein, ensuite, c'est son travail ensuite de citation. Son travail de citation, justement. Alors, pour aller relativement vite, le travail de Liechtenstein, bon, par exemple ici, un peu comme héros, il va faire référence parfois à la guerre. Attention, on est quand même dans les années 70-80 aux États-Unis. Les États-Unis sont encore, même avant, 70, sont en guerre. Hein. Donc, chez Liechtenstein, il y a un côté un petit peu ironique sur l'imagerie de guerre aseptisée qu'on trouve dans les bandes dessinées. Et en les rendant grandes, elles sont... La bande dessinée, normalement, ne prête pas à conséquences, c'est un truc pour enfants, etc. Mais en les rendant grandes, uniques, faites à la main et gigantesques comme ça, il soulève une question sur, effectivement, la représentation édulcorée de la guerre dans la culture américaine, où tout à coup, la guerre est toujours au loin. Donc, tout à coup, là, il la rend plus grande, et avec l'ambiguïté de la rendre séduisante et presque immatérielle. On ne voit pas de corps, on ne voit pas de sang, on ne voit pas de personnages à terre, on ne voit pas de catastrophe, etc. Donc, chez lui, il y a une sorte d'ironie discrète. Mais ce qui va retenir Liechtenstein, c'est aussi la puissance et l'efficacité du graphisme pur. C'est-à-dire des traits, des hachures, des grandes lignes, des épaisseurs de traits, des contours, des couleurs simplifiées, donc qui se rapprochent aussi des logos, de la publicité, etc. Hein? Donc c'est un croisement de genres. Ce qui est assez drôle avec lui, c'est qu'il va en faire un langage. Il va faire des outils graphiques, un langage subtil, alors attendez, puisque je suis sur Liechtenstein, je vais laisser sur Liechtenstein, comme par exemple ici, où ça va même devenir des sortes de sculptures, hein, où la hachure, qui normalement était un signe pour faire des ombres et des modelés et du relief, devient ici, alors ce sont des sculptures assez complexes, c'est taillé au laser dans des plaques, je crois, de métal ou des choses comme ça. Je ne pense pas que ça soit fondu. Ensuite, c'est peint et coloré. Ici, on pense que c'est plat et que c'est plan, mais en fait, ça repose sur une sorte de sculpture tabourée ici, qui est ici. C'est un œuf, c'est une ellipse, mais qui en fait ici reprend un volume réel. Si on passe de deux dimensions en trois dimensions, avec un clin d'œil aussi, parce que c'est un objet en trois dimensions, mais qui tout d'un coup, de volume, devient plan, et une fois qu'il est plan, il imite le volume par des effets graphiques, justement, de modeler, de dégrader, de transparence et de succession de plans. Puisque vous avez un pichet transparent devant un cadre, et le pichet qui serait transparent donne déformer l'image qui est derrière. Donc, c'est des jeux très subtils chez Liechtenstein sur le graphisme, la représentation de l'espace, du volume et de la profondeur. Bon, Liechtenstein, au début, a l'air comme ça, simple, mais c'est quelqu'un qui creuse la question, comme par exemple ici, c'est drôle, où sur un véritable volume, il va utiliser un graphisme qui, normalement, est là pour représenter le volume. Les petits points bleus ou les petits points rouges vont avoir une vocation, normalement, dans le dessin, de faire l'ombre ou la lumière. Bleu, ça sera l'ombre, et rouge, ça sera la chair, ça sera la couleur, ça sera le rose, etc. C'est-à-dire, si vous clignez les yeux, c'est le principe du mélange optique, hein, on va avoir un peu de rose, un peu de bleu, etc. Sauf que dans un volume, on n'a pas besoin de représenter l'ombre, elle est réelle. Donc c'est toujours un jeu aussi sur les codes graphiques de représentation. Les traits, les lignes, les hachures, les points, hein, qui ont normalement une sorte de codification de la représentation. Alors ça, je passe un petit peu. Je vais vous en présenter. Alors, ensuite, ça l'a amené aussi, évidemment, comme par exemple, voilà, ça c'est, et ouvre-toi, à faire des références très très claires à son grand maître, notamment, hein, qu'on va voir ici, c'est Matisse. Matisse ici, avec son bocal de poisson rouge, il a repris une œuvre de Matisse où il y a un bocal de poisson rouge, et je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait ici, c'est très malin. Attendez, hein. Tchouk tchouk. Là, vous avez une sorte de socle, hein, en métal, et là, vous avez une sorte de plaque en acier découpé, qui est ensuite repeinte, qui va représenter effectivement, qui est plane, mais qui représente un volume, un bocal, dans lequel il y a un poisson rouge, sur lequel, alors, effectivement, il y a une transparence, reflet, ombre, couleur, diffraction, etc. Vue de dessus, vue de côté, et puis avec l'image fractionnée, etc. Donc, on est dans un volume plan qui représente une peinture qui est plane et qui représente elle-même un volume. hein, parce que Matisse, aussi, la mise à plat des volumes vers quelque chose de très épuré. Et donc, c'est vraiment des mises en abîme chez Liechtenstein, mais où très clairement, son outil, sa marque créative, c'est les codes graphiques. Alors, poussé à l'extrême. Alors, autre Liechtenstein, où justement il va faire des clins d'œil à l'art, on va dire majeur, c'est par exemple, justement, sur le cubisme aussi. Le cubisme ici, avec des clins d'œil à Juan Gris et à Picasso, hein, et à Braque, on ne peut pas être cubiste, etc. Alors, c'est très intelligent de sa part, parce que ce qu'il met en référence dans des gens comme Matisse ou des gens comme Picasso sont effectivement des gens qui ont dissocié la ligne de la couleur, qui ont dissocié aussi et qui ont représenté le volume d'une nouvelle manière, par des aplats, par des mises à plat, par des prises de notes, par des signes. Picasso a libéré le graphisme justement par le principe des signes d'écriture, des signes de représentation, la mande pour l'œil, les trois barres parallèles pour faire soit les mains, soit etc. Donc, c'est un travail de signe. Le faux bois pour dire le violon, etc. Donc, tout ce jeu purement graphique, le faux bois, ce sont des lignes, l'écriture, ce sont des lignes, les contours, effectivement. Vous avez donc chez Picasso aussi la décomposition en forme simple, géométrique, cercle, carré, etc. Donc, finalement, l'hommage à Picasso est assez évident de la part de Liechtenstein. Et puis, c'est une sorte d'hommage croisé à Matisse aux couleurs pures et aussi à quelqu'un qui a été un grand graphiste, c'est Piet Mondrian. Piet Mondrian qui travaille sur le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le jaune, en couleurs primaires, etc. Donc, l'espèce d'épure de ses grands prédécesseurs, Picasso, Matisse et Mondrian, Liechtenstein y fait référence de manière très subtile. C'est, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un de bien cohérent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore chez lui? Attendez, j'en avais un ou deux. Oui, alors, oui, ça va être... Attendez, c'est là, parce que j'ai plus mon fichier... Ici. Il fait aussi quelque chose d'assez drôle, c'est il va faire des petits clins d'œil, y compris à ses contemporains américains qui sont des gens qui, au contraire, sont dans la peinture pure. Se sont éloignés du graphisme et de la figuration et de la narration. Des gens comme Pollock, Franz Klein, enfin bref, tout l'expressionnisme abstrait américain, qui va travailler justement sur la gestualité, sur la peinture, sur le hasard, sur la tâche, sur la couleur, et qui s'éloigne totalement de toute figuration. Et lui, il représente une tâche et une trace de peinture. Donc ça, c'est toujours du Liechtenstein. Alors, le document n'est pas de très bonne qualité, parce que j'ai eu du mal à le trouver en bonne qualité, mais il dessine une tâche de peinture, hein, et un geste de peinture. Donc c'est un petit clin d'œil ironique à ses camarades et concurrents peintres qui se sont éloignés du graphisme pour dessiner des tâches, dessiner le geste, alors qu'au contraire c'est un travail très très lent, etc. Donc c'est une représentation graphique d'un geste pictural qui au contraire est performatif et expressif, expressionniste. Un expressionnisme abstrait qui fait au contraire de la tâche, du corps, de la spontanéité, et là il prend exactement le contraire. Donc, il y a des clins d'œil très subtils chez Liechtenstein. Autre clin d'œil, là encore, y compris à la bande dessinée, c'est évident. Et puis là, vous voyez à Matisse, toujours, hein, Matisse qui est son grand maître, on va dire, parce que Matisse a fait la pureté de la ligne, c'est de l'arabesque de Matisse, que l'on voit ici citer avec la danse qui est derrière, mais cette fois-ci sans couleur, avec les hachures. Donc Liechtenstein, hein, c'est quelqu'un qui en fait a récupéré vraiment les codes graphiques et a jonglé avec de manière quasiment virtuose. Hein. Alors, c'est bien. Donc voilà des repères. Hein. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes, mais on voit un petit peu la richesse, hein, y compris dans l'art contemporain, du graphisme issu de la bande dessinée, les codes de représentation, hein, lignes, traits, contours, etc., et dans l'art contemporain. Alors, je quitte ce chapitre pour, et bien en fait, avec Liechtenstein, on a un peu abordé la question, c'est le graphisme et la ligne dans l'espace réel. Dans l'espace réel, c'est-à-dire que comment est-ce que certains artistes vont pouvoir utiliser et mettre en confronter cette réalité physique, toute simple, hein, la linéarité, la ligne, la trace, etc., la tige, avec l'espace tridimensionnel. Alors, là, j'ai pas mis de manière chronologique, parce qu'en fait, on peut dire que il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc, j'ai fait une sorte de petit parcours, hein, une sorte de petit panorama, comme ça, de pratiques diverses. Entre, justement, signe graphique et espace réel. Par exemple, ça tombe bien, je sais pas si c'est Richard Long, en fait, j'ai trouvé ça dans un catalogue sur le Land Art. C'est un travail tout simple, hein, sur un étang gelé, recouvert de neige, où un artiste va... attention, c'est un peu plus complexe, hein, parce qu'il faut essayer de ne pas laisser trop de traces pour donner l'impression qu'il a sauté de cercle en cercle, hein, donc c'est un truc tout bête. Il y a un travail de temps, un travail avec la fonte, un travail avec la neige, un travail avec la lumière, etc., avec l'usure, le vent. Donc c'est un travail qui est fait, qui est évidemment éphémère, qui est à la fois monumental, qui a l'air très simple. Si on n'a pas l'échelle, on ne perçoit pas de quoi il s'agit. Il faut vraiment zoomer pour voir le personnage qui est au centre, les personnages qui sont au centre, et qui sont avec leurs pieds, qui dessinent, hein, et une espèce de cercle. Cercle concentrique, hein, qui sont effectivement, qui donnent une sensation à la fois de trou, d'explosion, d'agrandissement, de zoom, etc., qui sont vraiment très poétiques et qui demandent un travail aussi, alors là, de dessiner avec ses pieds, de tourner en rond, et on revient au noir et blanc, hein, et à la question aussi de l'arpentage qu'on avait dit au tout début, c'est qu'un des premiers marques du graphisme, c'était de laisser une trace au sol, avec les chemins, les traces, etc. Et quelque chose qui est retrouvé dans des artistes comme ça, on appelle ça le land art, c'est le dessin dans le paysage, ou l'art dans le paysage. Alors, l'art dans le paysage se limite pas au graphisme, mais beaucoup d'artistes vont faire du marquage du territoire et du sol. Eh bien, la première pratique de land art, c'est effectivement comme si la terre était une grande page, et où la première chose à faire, c'est de laisser la trace d'un passage. Alors, pour que l'on repère que c'est une trace humaine, il faut qu'elle ait une forme bien particulière. Sinon, elle peut être confondue avec n'importe quelle trace du paysage. Donc très souvent dans le land art, vous allez trouver des formes géométriques ou des formes systématiques. C'est une manière de dire attention, de ne pas confondre les traces laissées par l'homme avec des traces naturelles. D'où très souvent dans le land art, des cercles, des lignes droites, etc. Qui sont des sortes de... C'est un signe de présence humaine. Alors la spirale, tout ce qui, voilà, spirale jetty, etc. Donc des formes géométriques simples. Alors, je vais continuer avec les cercles, justement, et les spirales, justement, avec... oui, c'était ici. Andy Goldsworthy, puis on est toujours dans la neige, hein, qui est un artiste anglais, qui travaille beaucoup sur l'éphémère, hein, qui va travailler avec avec un minimum de moyens, c'est-à-dire qu'y compris par exemple, celui qui va faire des cercles dans la neige arrive les mains dans les poches, Goldsworthy arrive avec presque rien, il va trouver presque tous ses éléments dans la nature, en fonction du climat, il va travailler en automne avec les feuilles fanées, il va travailler en été avec les fleurs, il va travailler avec la pluie parfois, il va laisser des traces de pluie, des marques d'humidité, etc., ou avec la neige et la glace, et dessiner un petit peu dans la nature. Comme par exemple ici, ces boules de neige, hein, qui sont des boules qui vont être plus ou moins grandes, qui vont dessiner, révéler le V de l'arbre, hein, tout d'un coup, puis le jeu sur le noir et blanc, ici, qui est tout d'un coup l'arbre, hein, tout d'un coup devient presque une forme blanche pure, hein, comme on le voit ici. Goldsworthy aussi, ça c'est quelque chose de très subtil. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait, c'est un reflet, c'est une sculpture dans l'eau. Et une fois que l'eau est apaisée, hein, qu'il n'y a plus de vibrations, hein, donc c'est un reflet, oui. Là on voit on devine à peine la surface de l'eau. Et il va donc faire des assemblages. Alors souvent c'est. Je ne pense pas qu'il y ait de fil et de ficelle, je crois que c'est des petites lianes, des petites tiges, etc. Il va lier des baguettes, hein, et faire une sorte d'arche de demi-cercle, etc., qui va essayer de s'étendre le plus possible. Et une fois qu'il a fini son travail, l'eau n'aura plus de rides, et tout d'un coup, par le reflet, on va s'écarter, hein, de la réalité, on va tout d'un coup retomber dans une sorte d'image pure, comme par exemple ici, très poétique, très légère, éphémère. où tout à coup on a l'impression de flottement total, et là un travail purement de dessin dans la nature et dessin dans l'espace. Et là, c'est un travail aussi très subtil et éphémère. Ça aussi, c'est des cailloux cassés, cassés en deux par le milieu. Il va travailler à la craie pour mettre en évidence l'ombre, etc. Il les range en spirale, hein, donc un effet graphique, une forme, à la fois humaine mais à la fois naturelle, hein, mais appliquée à des cailloux cassés, brisés, etc. Il y aura un effet aussi tout à coup poétique. Alors là, vous avez vu, ça c'est la couverture d'un livre, hein. Goldsworthy. Alors il y a des vidéos hein, très intéressantes où on le voit travailler. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un art minimal, c'est rarement monumental, hein, sauf quand il va faire parfois des grands trucs. Et par la photo, par contre, c'est un travail qui n'est visible quasiment que par la photographie, puisqu'il est éphémère hein, presque toujours. Autre Goldsworthy, par exemple, ranger des cailloux selon leur couleur, tout simplement. Alors au centre, je crois par contre, qu'il y a un support noir, etc. C'est des cailloux qu'on peut trouver dans n'importe quel. Voilà. Et puis, les mettre en cercle et les ranger par la couleur donne toute une espèce d'ordre humain dans une sorte de chaos naturel. Mais on est toujours sur des valeurs graphiques, noir et blanc, etc. Là encore, le cercle, les tiges, les bâtons qui sont récupérés par hasard, auxquels on va construire, mettre en scène des formes et figures. Alors, bon, Goldsworthy, c'est un des plus connus. Vous avez aussi quelqu'un qui est très proche de lui qui s'appelle Niels Udo, hein, qui travaille aussi sur. Alors, il se rapproche aussi des pratiques animales, hein, les nids, les constructions des nids, des abris, des barrages de castors, etc. Ce sont des gens aussi qui vont essayer de retrouver cette espèce de fragilité et de beauté des formes naturelles. Là aussi, ce sont des feuilles, c'est tout bête, hein, il n'a rien coloré. Hein. Il récupère des feuilles qui sont plus ou moins exposées à la photosynthèse, où on voit et il les range. Donc il y a un côté rangement, classement, et évidemment, avec toute une fois qu'on regarde ça, il y a son émerveillement, comme si tout à coup il y avait la lumière, au sens strict, d'ailleurs, il y a plus ou moins de lumière, pour avoir ces couleurs-là. Le graphisme très délicat aussi des feuilles mortes avec les nervures, et on se rend compte, c'est aussi une nouvelle manière de voir la nature, qui est très intéressante. Là aussi, alors ça c'est des trous abattus et découpés et rangés pour faire une sorte de parcours au milieu d'une forêt d'eucalyptus. Alors, je vous dis que souvent c'était minimaliste, mais à force d'être connu, il a eu aussi des commandes un peu plus majeures. Et là, donc c'est toujours, chez Goldsworthy, c'est une réorganisation de ce qu'il y a autour de lui. Hein, c'est l'espace, ce sont les arbres, mais il va les réorganiser. C'est une manière de passage de l'humain, voilà, avec une sorte de parcours, une autre manière de voir. Et une fois qu'on voit son travail, on regarde tout ce qui est autour différemment. On va voir la moindre brindille, le moindre tronc, la moindre feuille, autrement. Donc, le sourcil là-dessus est assez remarquable. Attendez. Pour rester dans la thématique Goldsworthy, quelqu'un que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est donc Richard Long. Richard Long avec ses cercles. Alors, les cercles, Richard Long travaille soit sur des cercles, soit sur des lignes. Alors, par exemple, mais je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Le voilà au travail, hein. Richard Long, ici c'est dans une galerie, alors Richard Long va confronter tantôt l'espace de la galerie, tantôt l'espace réel de la nature. Donc, dans la galerie, il va essayer de ramener un maximum de nature, on va dire, et dans la nature, il va essayer de marquer au maximum de façon humaine. Donc si vous voulez, c'est une sorte de, comme si c'était deux lieux apparemment opposés, il va essayer de les joindre. Donc, dans l'espace de la galerie, il va ramener de la boue calcaire et une sorte de boue calcaire blanche d'une rivière de sa région. C'est un Gallois, hein, il est britannique, Gallois. Et dans une rivière, il va récupérer, filtrer cette boue très claire, très presque ocre et pâle, etc. Et au sol, il va essayer de faire la ligne la plus grande possible avec un seau, avec plusieurs seaux. Et donc, cette espèce de parcours optimisé, on va dire, dans une forme géométrique rectangulaire cadrée par les carreaux du sol, hein, donc là aussi une sorte de mise au carreau, il va essayer de faire le parcours le plus long possible. Alors il le fait à la main, c'est-à-dire qu'il va étaler à la main, donc sa main aussi va au sens strict, elle va tracer, hein, elle va parcourir l'espace le plus grand dans un espace donné, c'est optimiser cette espèce de dimension, et en même temps rendre cette espèce de matière avec les coulures, les bavures, etc. Alors ce travail entre la galerie et la nature. Le voilà à l'œuvre aussi dans quelque chose d'assez remarquable. On le voit ici, alors là c'est assez récent. Hein. Ce sont des études de grande composition géométrique qui sont faites là aussi avec de la boue très ocre et une belle de terre glaise hein, qui va filtrer. Hein, il va utiliser plusieurs tamis pour avoir une sorte de matière première très très fine, suffisamment liquide et en même temps qui sèche assez vite. Alors de ce point de vue-là, il est intéressant parce qu'il va retrouver à la fois la matière première, on va dire, il va retrouver un geste presque primitif. On voit la terre, hein, qui est peut-être la première peinture possible. C'est, au sens strict, on a rouvert Lascaux, puis on voit bien que c'est les terres, les ocres, etc. Et puis, cette terre-là, il va disposer à la main sur des grandes surfaces préparées. Donc il va d'abord peindre en noir, et sur le noir, il fait ses gestes, il étale à la main, il frotte, il gratte, donc on voit son geste. Vous avez les éclaboussures ici et les traces de ses doigts et de ses mains. Alors il est sur une sorte de grue hein, qui le monte, etc. Parce que c'est très grand. Et là, donc, c'est un travail graphique pur. Alors ce que ça donne, par exemple, en. Voilà une autre œuvre, toujours de Richard Long. Ah, sinon. Voilà, hein, ça c'est une autre œuvre. Alors il y a une vidéo entière, on le voit en train de faire ça, c'est très très long, il s'appelle Long, mais c'est très long. Donc si vous voulez, il y a aussi une expérience au sens strict du parcours. Donc sa main devient fait en gros des chemins, un chemin circulaire, mais sur l'espace de la galerie, avec les matériaux de cette rivière. Alors la rivière aussi, c'est le chemin sinueux, etc., la rivière qui coule, qui est une grande ligne dans la nature. C'est un peu retrouver aussi l'énergie. Alors là, il a un côté romantique, hein, presque mystique, parce qu'il y a l'énergie, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, on dirait le soleil aussi, et la terre. Donc il travaille aussi avec tous les éléments. Donc Richard Long, l'air de rien, dans cette espèce de simplicité des moyens, prend quelque chose, une terre qui devient soleil, l'énergie, le geste et l'air, là, les tâches, le hasard, l'ordre, hein, la répétition et en même temps quelque chose d'unique. De ce point de vue-là, il a une part... c'est quelqu'un de subtil. Hein. Là, voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais vu de haut. Hein. Là, on le voit en train de faire. Alors, il a fait aussi des expériences d'arpentage du territoire sur lesquels, effectivement, il y a plusieurs niveaux de travaux graphiques. Puis je termine avec ça, puis on continuera après l'année prochaine, quand même. Il est anglais, hein, donc vous connaissez les grands. En fait, c'est ancien. Hein, vous avez le cheval blanc du Wiltshire. Vous avez aussi ces grands bonhommes blancs du Dorset, qui sont des dessins faits à même les collines anglaises préhistoriques. Hein, certains sont difficiles à dater, certains sont du néolithique, d'autres sans doute plus récents. Où les Anglais, les hommes préhistoriques, ont gratté la terre pour faire aboutir le calcaire, donc des dessins blancs, un peu comme à Nazca au Pérou, etc. Et lui, il va sur la terre, sur sa terre connue, il va essayer de faire d'abord, oh zut, un cercle. Alors, je ne sais pas exactement comment il choisit ses lieux, des lieux qu'il connaît, hein, un cercle théorique, et il va vraiment noircir ici toutes les routes. Et ensuite, par contre, il va essayer de parcourir toutes ces routes réellement. C'est-à-dire qu'il va les arpenter réellement. C'est-à-dire, ce qui est une sorte de projet purement théorique, purement graphique, purement abstrait, il va essayer de les arpenter réellement. Et d'en ramener des échantillons à chaque fois. Donc il va essayer de confronter, alors là il est presque platonicien, c'est une sorte d'idée pure, abstraite, à la réalité. Et donc d'un coup il va donner corps à une idée pure, hein, il trace un cercle quelque part. Et évidemment ce cercle, il n'est jamais parfait, parce que parfois la route s'interrompt, on ne peut pas aller d'un point à l'autre, donc il est obligé de repartir ici pour retourner le cercle ici, et à chaque fois il va essayer de les faire réellement à pied, c'est-à-dire de parcourir tout ce temps, donc c'est une sorte d'infini, hein, du temps. Donc à chaque fois, il y a aussi une question de quantité. La ligne devient une réalité physique, hein, dans laquelle les pieds, les mains, le temps, tout ça sont très subtilement densifiés. Alors là, Richard Long, c'est quelqu'un de très dense. Hein, on a vu des. Alors, autre chose très dense chez lui, c'est les lignes droites qu'il va faire dans le désert. Il y a une vidéo. Alors, pour obtenir ça, hein, ça fait peut-être 100 mètres de long, dans un sens et dans l'autre, il va marcher en frottant ses pieds comme ça pendant des heures, et il va faire des allers-retours jusqu'à ce que, uniquement par les pieds, il puisse, comme s'il allait faire plusieurs... alors il dit, je crois que c'est presque 100 miles, hein, mais sur une distance courte. C'est qu'avec des allers-retours, il va user ses chaussures, s'user lui-même en plein soleil, etc., pour que tout d'un coup, il y ait la traduction physique d'une durée, d'un temps et d'une distance plus vaste, mais dans un espace plus contraint. Donc toujours cette idée aussi de la contrainte et puis de la densification d'une ligne simple. Ça, c'est Richard Long là-dessus, et c'est quelqu'un de très très cohérent et avec une poésie aussi, et qui demande à chaque fois un investissement de sa personne. Parce que à chaque fois, c'est un travail physique.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des alertes des gens qui disaient l'hôpital n'est pas
le même? Non, parce qu'il va dans le désert. Il va dans le désert, et en général, il choisit des endroits très très. Oui, alors, il se fait filmer parfois, il fixe une caméra. Et cette idée aussi de lutter contre le temps, hein. C'est aussi quelqu'un qui la petite. Alors ça c'est très beau si c'est la vanité humaine. Peu de choses, mais quand même laisser sa marque, laisser sa trace. Il revient à quelque chose de primitif de ce point de vue-là, et c'est quelqu'un de vraiment poétique. Bon alors j'ai fini, là il est l'heure. Je continuerai un petit peu avec lui parce que j'aime bien. Hein. Comment? Ah bien sûr. Ah bien sûr. C'est très. Ah oui oui. C'est super. Et là, la trace de sa main hein, dans la matière, là, elle est vraiment dans. Alors, je vous mettrai des vidéos si vous voulez. Enfin, si vous regardez Richard Long YouTube, vous en avez pas mal. Où on le voit en train de faire essayer grand cercle ou marcher comme ça dans le désert. Ah oui, vidéo de Golf War 6. Oui. Ouais. Ah, ça, c'est pas Golf War 6, c'est Smithson, Spiral Jetty. Ouais. Ah, d'accord. Ah, par contre, ah, je ne me souviens plus. Donc, oui, Golf War 6, vous avez des vidéos qui sont assez belles aussi. Non, mais il laisse son empreinte sur le bitume quand il pleut. Il s'enlève et tout d'un coup il y a une sorte de pochoir de Golf War 6 fait par la pluie. Donc c'est éphémère, mais il faut rester sous la pluie en short comme ça, etc. Et la pluie, c'est les petits points qui finissent par faire une figure aussi. C'est un pochoir naturel. Bon, sinon, bonne vacances.
Merci.
Bonne fin d'année.